te dire le coup, une histoire à dormir debout. La commère bavarde, mais c'est Scheherazade. Nous sommes tous autant, c'est lecteur, c'est sultan. Qui a le vent en poupe, c'est Riquet à la houppe. Qui malgré sa laideur, en amour est vainqueur. C'est dans une clinique que la quenouille pique. La belle au bois dormant boit des médicaments. Ou bien c'est pas de chance, elle attend la naissance d'un rejeton royal pourvu qu'il soit normal. Et lorsque le sang coule sur les fous, sur les foules, s'il va du bon côté, ça peut se raconter. Mais s'il peut faire tâche, de grâce qu'on le cache sous la soie des papiers des mariages princiers. Si les sorciers nous mentent et si la vie augmente, pourquoi crier à bas marquis de Caraba? Puisqu'à toutes les pages de nos revues d'images, pour nous réconforter, il y a ces chabotés. Tournez, tournez, rotative.
Alors, Jean Stern, on va en venir à ces épouvantables patrons. Mais je voudrais bien qu'on évoque d'autres responsabilités. Vous allez me dire pourquoi et dans quelle mesure il y a responsabilité de la presse gratuite, d'Internet, de l'État. Internet, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un concurrent énorme ?
Ne soyons pas naïfs. Évidemment, le paysage des médias a changé entre 1944 et 2002, et évidemment 2012. Il y a eu des évolutions, et il y a eu des évolutions dans lesquelles une partie de la presse mondiale a su se positionner, et une autre partie n'a pas su se positionner. L'affaire d'Internet et du gratuit est particulièrement intéressante. La presse gratuite a pris en France 24% du marché des quotidiens en 10 ans. Ça veut dire aussi que les quotidiens n'ont pas su évoluer sur les contenus. Mais ça veut dire surtout que les quotidiens ont cru, gratuit comme payant, que le modèle unique de développement, c'était la publicité, et que donc on pouvait s'appuyer sur la publicité pour faire de la presse. En réalité, rien n'est plus faux. Quand la crise arrive, et la crise arrive en ce moment, et elle est violente par exemple en Espagne, où le tirage des journaux gratuits sont passés en 3 ans de 6 millions d'exemplaires à 1 million d'exemplaires. Donc on voit bien que la gratuité n'est pas un modèle. Pareil pour Internet, on ne peut pas produire de l'information gratuite. Tant qu'on produit de l'information gratuite, on, d'une certaine manière, oblitère son développement. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres quotidiens étrangers, dans des quotidiens américains ou dans des quotidiens britanniques, par exemple? On peut mettre en cause la propriété, mais on peut mettre aussi, surtout en cause, la manière dont la propriété influe sur les contenus. Dans les médias anglo-saxons, les propriétaires, qui ne sont pas des anges, hein, qui sont des capitalistes comme les Français, sauf que c'est des capitalistes du secteur des médias et non pas du secteur hors médias comme nos capitalistes français qui ont fait leur fortune ailleurs.
Murdoch, il ne fait que de la presse.
La famille propriétaire du New York Times, elle ne fait que de la presse. Et malgré tout, ces gens-là ont continué à investir dans la presse et notamment en investissant dans les contenus. Les contenus, bah, c'est des journalistes derrière. C'est des hommes et des femmes qui produisent de l'information et qui ont besoin pour ça de moyens. On ne peut pas faire un bon reportage dans certains pays en 2 jours, en 3 jours, vous le savez bien. Il faut passer du temps, il faut avoir des correspondants sur place, il faut avoir des envoyés spéciaux, il faut avoir le moyen de travailler, il faut avoir de la pagination pour développer des sujets. Qu'est-ce qu'on nous impose aujourd'hui dans nos quotidiens ? Des suppléments luxueux. Vous prenez Obsession, diffusé avec le Nouvel Obs, vous prenez Next, diffusé avec Libération, vous prenez une partie de M, le magazine, diffusé avec Le Monde, je vous les mets devant vous à l'aveugle, vous ne les reconnaissez pas. C'est des contenus uniques, qui sont des contenus en gros sur les sacs à main qui sont en gros produits par les propriétaires des journaux eux-mêmes. Donc on est dans un espèce de cercle vicieux où la publicité sert le contenu, qui sert les propriétaires, qui sert le contenu, etc., etc., etc. Évidemment, c'est plus amusant, on peut le considérer, de parler des sacs à main que de parler du Mexique, par exemple. Mais en même temps, bah, c'est pas du journalisme de parler des sacs à main.
Alors, le rôle de l'État là-dedans, le rôle des gouvernements successifs, si on s'accorde pour faire commencer cette histoire à la Libération ?
Ben, le rôle de l'État, il est particulièrement intéressant, puisque l'État à la Libération, en gros, nationalise l'ensemble des équipements de presse, c'est-à-dire les imprimeries, les immeubles des journaux, même les camions qui servent à la distribution, essaye de construire un nouveau système de distribution en échappant à la librairie Hachette, qui avait largement collaboré et qui donc avait sombré dans une page grise de l'histoire de France, voire noire, et en même temps, on donne ça au Parti communiste à l'époque, qui gère évidemment très mal, puisqu'il se sert des messageries pour faire employer son service d'ordre, en gros, et donc, bah, du coup, on se retrouve dans une situation extrêmement complexe, où d'un côté, vous avez le Parti communiste qui gère la partie technique de la fabrication des journaux, les imprimeries, la distribution, et de l'autre côté, les rédactions sont prises en main par les gaullistes, c'est-à-dire que que ce soit les journaux populaires, type François, ou que ce soit les journaux de qualité, type Le Monde ou Le Figaro, les gaullistes incarnent tout ça. L'État, lui,